France Musique.
Classique Info, Sophia Anastasio. Bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Mathis.
C'était la dernière nuit des BBC Proms samedi dernier.
Et depuis, toute la presse britannique parle de la prestation de la chanteuse Jamie Barton. La mezzo-soprano américaine a brandi un drapeau arc-en-ciel, drapeau LGBT à la fin du Rule Britannia, chant patriotique britannique qu'elle interprétait. Vêtue d'une robe avec une cape aux couleurs du drapeau de la fierté bisexuelle, lavande, bleu et rose, c'est très important pour moi de m'affirmer en tant que femme bisexuelle, a-t-elle déclaré, et d'unir le public dans une valeur d'acceptation de soi. Et la nuit était chargée en symboles puisqu'on a vu beaucoup, beaucoup de drapeaux européens au sein du Royal Albert Hall de Londres, des bérets aussi aux couleurs de l'Europe. Sur toute sa durée, le festival des BBC Proms a réuni 300 000 spectateurs, peut-on lire sur le site de la BBC. Et France Musique y était au Royal Albert Hall de Londres samedi dernier pour suivre en direct la soirée. C'est à réécouter sur francemusique.fr.
Dans l'actualité musicale également, le japonais Haruma Sato qui remporte le concours de l'ARD dans la catégorie violoncelle.
Âgé de 21 ans, il repart avec la somme de 10 000 euros. Le deuxième prix a été décerné à l'allemand Friedrich Thiele et le troisième au chinois Siahe. Parmi les membres du jury, il y avait notamment Ophélie Gaillard.
Et en France, c'est le concours Corneille qui se tenait ce week-end.
Le concours international de musique baroque de Normandie accueillit 29 chanteurs venus de 13 pays différents. C'est la mezzo-soprano britannique Bethany Orakale qui a remporté le premier prix, la française Julie Roset, soprano léger coloratour, le second.
Et le jury était présidé par Stéphanie Doustrac.
C'est l'heure de la chronique écho d'Antoine Péker. Bonjour Antoine.
Bonjour Sophia, bonjour à tous.
Antoine Péker qui nous joint depuis Amsterdam, mais à l'occasion de la journée spéciale Opéra de Paris, vous vous intéressez ce matin au fonctionnement économique de cette institution.
Eh oui, ma chère Sophia, Molière n'avait pas tort en affirmant, je le cite, que de tous les bruits connus de l'homme, l'opéra est le plus cher. Son modèle économique est en effet confronté à la fatalité des coûts croissants, ce qui a été théorisé par l'économiste William Baumol. Plus on donne de représentation, plus ça coûte cher, puisque les artistes ne fabriquent pas un produit, mais sont eux-mêmes le produit. L'Opéra de Paris, c'est aujourd'hui un budget de 225 millions d'euros. Alors bien sûr, l'institution n'est pas à but lucratif, mais arriver à l'équilibre des comptes est déjà une gageure.
Alors d'où vient le financement de l'Opéra de Paris ?
Il y a tout d'abord la subvention de l'État. Elle est de 97 millions d'euros. En 10 ans, elle a diminué d'à peu près 10%. Car pour l'État, en période de crise sociale et économique, il n'est vraiment pas facile de justifier une telle dépense. D'autant qu'il y a une inégalité profonde entre les opéras sur le territoire. Les 15 opéras de région reçoivent en tout 28,5 millions d'euros, moins d'un tiers de ce qui va à l'Opéra de Paris.
Et qu'en est-il des ressources propres ?
L'autofinancement atteint aujourd'hui 55% pour l'Opéra de Paris. Grâce déjà au mécénat, Stéphane Lissner a réussi à faire grimper les soutiens des mécènes à 18 millions d'euros grâce à la ROP, le cercle des amis de l'opéra. Alors on reste encore loin des 45 millions de mécénats de la Scala ou des modèles privés anglo-saxons. La vente des billets représente aussi une ressource incontournable. Et d'ailleurs, le montant des prix de billets a nettement augmenté ces dernières années. Une place en première catégorie, c'est autour de 200 euros.
Donc l'équation économique paraît difficile.
Effectivement, car d'un côté, on demande à l'opéra d'être plus démocratique, et de l'autre, l'institution doit s'autofinancer de plus en plus. Comme conséquence, regardez la faible part consacrée à la création contemporaine, car elle risque d'attirer moins de public, mais qui est pourtant dans le cahier des charges. Et il y a aussi certains partenariats sur lesquels on peut s'interroger. Par exemple, ce projet de coopération de l'Opéra de Paris avec l'Arabie Saoudite, en pleine guerre avec le Yémen et après l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, qu'en pensera le nouveau directeur Alexander Neff ?
Et justement, dans ce contexte économique, que peut faire Alexander Neff ?
Ce n'est pas un hasard, Sophia, si Emmanuel Macron a choisi le directeur de l'opéra de Toronto et de Santa Fe, deux maisons d'Amérique du Nord, qui fonctionnent uniquement avec de l'argent privé. Mais il ne s'agit pas de dupliquer un modèle nord-américain en France. L'Allemand Alexander Neff va vite le comprendre quand il va devoir se lancer dans la renégociation de la convention collective. Aujourd'hui, il y a des régimes spécifiques très favorables aux employés. La particularité est aussi que l'opéra fait travailler à la fois des permanents et des intermittents. La masse salariale représente 70% des dépenses de l'opéra. Comment réussir à rééquilibrer avec l'artistique sans créer de crise sociale ? À cela s'ajoute le projet de nouvelles salles modulables, des travaux de 40 millions d'euros pour créer la troisième salle de l'opéra, dont le modèle de fonctionnement reste encore à définir. Une salle pour l'académie, comme l'envisageait Stéphane Lissner, un lieu aussi de privatisation pour faire entrer du cash. Il reste donc maintenant à souhaiter viel Glück à Alexander Neff.
Merci beaucoup Antoine, on vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine Chronique Écho.
Et Sophia, pour terminer, un petit tour du côté de la presse, papier.
Avec un portrait du pianiste Alexandre Kantorov dans Libération ce matin, premier lauréat français du concours Tchaïkovski, le musicien de 22 ans embrase toutes les salles où il se produit, écrit Guillaume Thion. Il revient ce matin sur son parcours et sa prestation, surtout pendant la compétition. En finale, je me suis lâché, raconte-t-il, comme si j'étais chez moi. C'était totalement délirant.
Alexandre Kantorov, dont on pourrait écouter d'ailleurs le récital donné la semaine dernière, oui c'était la semaine dernière, enfin la semaine, non encore avant, en fait il y a 10 jours on va dire, c'était à Toulouse, à Jacobin, au cloître des Jacobins, et France Musique y était. Sophia Anastasio, à demain.
À demain.
7h45 et Classique Info, également sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.